Et retour sur Alpe 1 avec ce débat de l'entre-deux-tours sur la première circonscription des Hautes-Alpes avec le Dauphiné libéré et Alpe Midi et deux candidats face à face, Marie-Josée Allemand pour le nouveau Front Populaire, Jérôme Sainte-Marie pour le Rassemblement National. Je le disais juste avant la pause, on va parler de santé. 713 médecins sont en activité en 2023 dans le département, dans les Hautes-Alpes. L'âge moyen de ces médecins en activité est de 48,6 ans. Dans les Hautes-Alpes, ça s'est amélioré, hein, 1,8 ans de gagné par rapport à 2010. Il y a 27,2% des médecins qui ont 60 ans ou plus, ce qui veut dire qu'on n'approche pas trop encore de la retraite et qu'il n'y aura pas cette question de renouvellement qui se posera. Ça va beaucoup mieux, ça reste toujours un sujet de préoccupation. Est-ce qu'il faut réguler l'installation des médecins dans les déserts médicaux, Jérôme Sainte-Marie ?
Oui, je pense surtout qu'il faut, là aussi, c'est une différence philosophique presque entre le programme du Rassemblement National et le programme du Nouveau Front Populaire, c'est qu'il ne s'agit pas d'imposer à des médecins d'aller à tel ou tel endroit. Ce genre de méthode, ça peut être efficace quelques mois, mais c'est rapidement, ça provoque des effets pervers terribles. Non, ce qu'il faut, c'est... Alors nous, on a plusieurs mesures. Il y a des mesures à plus long terme, c'est la fin du numerus clausus pour les médecins. C'est-à-dire
qu'aujourd'hui, on est en numerus apertus.
Voilà, donc c'est cela. Et puis pareil.
Là, on y est déjà.
Pas totalement à ma connaissance, mais enfin bon, je vous laisse, laisse en juger.
La seule problématique, c'est au niveau des universités, il n'y a pas assez de place.
Ce que l'on souhaiterait, c'est de manière urgente, parce que la question des déserts médicaux, c'est-à-dire le fait qu'on est dans les Hautes-Alpes, dans bien des endroits, il est extrêmement difficile d'aller rapidement trouver un médecin. Et bien pour cela, c'est par exemple de permettre à des médecins retraités de reprendre le travail sans payer d'impôt sur le revenu de leur activité. Voilà une mesure incitative qui fera que peut-être nous sommes que compte tenu des avantages en termes de qualité de vie du département, nous pourrons ramener vers nos territoires, notamment les territoires un peu excentrés, davantage de médecins.
Marie-Josée Allemand, je vous ai vu faire non au moment où Jérôme Sainte-Marie évoquait cette question de remettre des médecins retraités en activité.
Je voudrais juste revenir sur les propos de M. Sainte-Marie tout à l'heure. Excusez-moi, juste pour lui répondre. Les circuits courts dans les Hautes-Alpes, ça existe. Dans les cantines, ça existe. Il y a une entreprise qui s'appelle Échange Paysan et qui travaille aux circuits courts directement. Des producteurs aux cantines scolaires, c'est déjà en place, M. Sainte-Marie. Ça existe déjà. Moi, je parle de mon...
On établit une norme, si vous voulez, qui permet de garantir cela.
Je parle de mon territoire. Je parle de mon
territoire. Et notre territoire, en tant que député, madame, c'est la France, voyez-vous.
Monsieur, notre territoire en tant que député,
c'est... Si vous ne souhaitez pas, vous seriez représentant de la nation.
Vous allez me laisser parler, s'il vous plaît. Arrêtez de me donner des conseils. Vous n'êtes pas mon professeur, je vous l'ai déjà dit. Alors,
ça a été fait depuis 1974, très souvent.
On le sait. Moi, je souhaite répondre simplement que les circuits courts
on passera à la santé.
Après on passera à la santé, il n'y a pas de sujet. Mais les circuits courts, ça existe, je le redis, ça existe dans le sud comme dans le nord du département et c'est quelque chose qui est en place et qui marche très bien. Les cantines aujourd'hui ont des produits locaux à disposition des élèves et ça se fait dans notre département. Nous sommes précurseurs aussi en agriculture avec des produits de très haute qualité.
Marie-Josée Allemand, on va passer à la santé quand même, il va falloir avancer. Cette proposition, remettre en activité les médecins retraités.
Moi, ce que je veux dire avant tout, c'est parler de notre programme à nous. Notre programme à nous, c'est remettre à équité, je dis bien équité, les territoires ruraux, des métropoles et des grandes villes. Parce qu'aujourd'hui, quand on habite dans les Hautes-Alpes, si on a besoin de rendez-vous d'urgence, c'est partir à Aix ou à Grenoble, selon le cas, pour pouvoir avoir un rendez-vous chez un dentiste, chez un ophtalmologue ou autre. Ce n'est pas acceptable.
Mais comment on remet en équité ?
En faisant des maisons de santé, par exemple.
Et quand elles ne sont pas occupées, parce que ça existe, il y en a certaines qui ont vu le jour et les spécialistes ou les généralistes ne viennent pas.
Et pourquoi ils ne viennent pas ? Vous savez, à Serres, il y a une dentiste qui s'est installée il y a 2 ans. Cette dentiste, aujourd'hui, elle attend toujours les aides que lui a promis le gouvernement Macron pour s'installer. Ces aides sont bloquées par l'ARS, on ne sait pas pourquoi, et cette personne ne pourra pas continuer à rester dans notre département si elle ne, pas, elle ne perçoit pas ces aides. La première des choses à faire, c'est de respecter la parole de l'État et faire en sorte que ce qui a été promis soit donné. Si on perd cette dentiste sur Serre, c'est toute une tranche du sud de notre département qui va être en difficulté. On ne peut pas se priver des médecins lorsqu'ils viennent s'installer. Et la communauté de communes au niveau de Serre, les quelques communes aux environs, souhaitent faire une maison de santé dans ce coin de notre département. Et cette maison de santé, il faut les aider. Il faut le mettre en place, il faut les aider à faire cela. Et lorsque les collectivités locales ont ce projet, il ne faut pas réfléchir. Il faut foncer, il faut les aider du mieux que l'on peut. Il faut le faire parce que c'est une attente forte de notre population. On doit aujourd'hui attirer des médecins. Alors, nous avons la qualité de vie qui n'est pas négligeable et pour le coup est un attrait substantiel dans notre département. Et obliger les médecins à venir travailler chez nous.
Obliger.
Oui, s'il faut, nous les obligerons.
Comment ? C'est-à-dire, ils sortent de l'école et vous leur demandez de venir directement dans les Hautes-Alpes ?
Vous savez, les gens ont envie de venir travailler chez nous. On le voit. C'est factuel. Là,
pourquoi les obliger s'ils ont envie de venir ?
C'est factuel. D'ailleurs, vous voyez bien, vous aussi, vous avez envie de venir dans les Hautes-Alpes. Vous êtes là ?
Je suis depuis des années arrêté avec ça. Sincèrement, on est là pour parler de projets, on n'est pas pour des attaques personnelles. Je ne sais pas si les médecins ont envie de venir dans les Hautes-Alpes.
Bien sûr.
Mais ce que je constate, évidemment, on a encore parlé. On constate simplement qu'on compte beaucoup moins de médecins ici. On a des chiffres, on compte en France 251 médecins pour 100 000 habitants. Ici, c'est uniquement... dans les Hautes-Alpes, 328 au niveau national. On a effectivement aujourd'hui... 18% des habitants dans la circonscription qui vivent à plus de 30 minutes d'un établissement de santé. Il y a des mesures effectivement qui sont proposées. Permettre aux médecins de bien gagner leur vie et pour cela de choisir les Hautes-Alpes. Mais sincèrement, les mesures autoritaires ne peuvent être efficaces, si jamais elles le sont, qu'un temps.
On poursuit ce débat. Je vais juste faire un point sur le temps. Jérôme Sainte-Marie, 19 minutes 50 secondes. Marie-Josée Allemand, 20 minutes 30. Vous avez donc 40 secondes d'écart. On poursuit avec l'écologie. Cette question, Anna Dalpé-Midi, sur le DPE.
Oui, tout à fait. Donc moi, je voulais apporter un coup de projecteur sur l'une des problématiques du logement dans le département, avec ce fameux DPE pour diagnostic de performance énergétique, qui est entré dans le nouveau calcul et est entré en vigueur dans le cadre de la loi Climat et Résilience et vise à lutter contre les hébergements énergivores. Cependant, le mode de calcul ne prend pas assez en compte des spécificités liées à nos territoires de montagne. Je rappelle quelques chiffres. En France, 35% des DPE sont en classé E, F ou G. Dans les Hautes-Alpes, c'est 68%. Cela représente 2/3 du parc. Sur les bâtis anciens, donc avant 1947, ce taux s'élève à 83%. Et dans certaines stations de ski, c'est encore plus. Quelle réponse pouvez-vous apporter à cette problématique ?
Jérôme Sainte-Marie.
Alors sincèrement, je ne vais pas faire semblant de connaître ces chiffres. Je n'ai pas de connaissances particulières en ce domaine. Sinon le fait que dans la circonscription, nous avons quand même beaucoup moins de stations de ski que dans la seconde. Mais effectivement, je crois que la meilleure réponse à donner pour ces problèmes, c'est aussi, bon, en dehors de l'isolation, c'est aussi de permettre aux habitants, ici comme ailleurs, d'avoir une énergie moins chère, et énergie propre. C'est pour ça que nous défendons au Rassemblement National, nous défendons depuis longtemps, résolument, le recours à l'énergie nucléaire, ou bien à la modernisation, mais ça aura un impact moindre en termes de quantité, de tout ce qui relève des barrages hydroélectriques. On s'oppose à la fois à l'abandon de la filière nucléaire, j'aimerais avoir le point de vue de Madame Allemand là-dessus, et puis également à l'implantation sur les beaux paysages des Hautes-Alpes, comme d'ailleurs, de parcs éoliens. Donc effectivement, c'est le fait de fournir cette énergie, et par ailleurs, nous voulons renégocier dans le cadre européen eh bien, les conditions de tarifaires de l'énergie qui sont actuellement très défavorables à la France. C'est un enjeu de consommation pour les ménages, mais c'est aussi pour de production pour les entreprises. Le fait que nous ayons ce magnifique parc nucléaire et donc une économie, une énergie abondante, régulière et moins chère est un des grands atouts de la France. Et c'est dommage que nos gouvernants l'aient sacrifié sur l'autel européen.
Anna ?
Oui, pardon, je voudrais préciser peut-être le sens de ma question. Il y a des contraintes face à ce diagnostic. Les hébergements classés G, par exemple, ne pourront plus être loués dès 2025, 2028 pour les classés F. La question portait aussi sur le fait que ne pouvant plus être loués dans un département qui est déjà sous-doté en termes de location, est-ce que ce n'est pas une contrainte qui est un peu courte pour les propriétaires immobiliers ? Ce sont des chiffres de l'UNPI hein, qui ont été donnés en 2023. Le problème est multiple parce que faire appel aux entreprises pour faire les travaux dans les Hautes-Alpes va être très contraignant, très coûteux. Les aides ne suffisent pas souvent à compléter le reste à payer pour les propriétaires immobiliers. Donc, est-ce qu'on peut pourrait pas envisager d'assouplir un petit peu tout ça. L'idée n'est pas de louer des passoires thermiques aux gens, mais de faciliter l'accès au logement, peut-être en facilitant les choses aux propriétaires.
Marie-Josée Allemand.
Oui, je partage votre analyse sur la problématique des logements qu'on a dans les Hautes-Alpes. Nous sommes un département de montagne, ça aura échappé à personne. Et l'énergie consommée sur le chauffage est très importante. Et La première des choses, je l'ai dit tout à l'heure, mais supprimer la taxe Macron des 10% sur l'énergie, c'est un premier point, ça ne suffit pas, bien évidemment. Nous devons aider les propriétaires à isoler ces logements. Il n'est pas décent aujourd'hui de chauffer son logement comme si on avait les fenêtres grandes ouvertes. On ne peut pas accepter cela. Il faut, alors peut-être... Alors, c'est mon avis personnel, de suspendre cette décision, donner un petit peu plus de temps aux propriétaires pour qu'ils puissent isoler leur logement. Ils doivent le faire. Ils doivent le faire. Nous ne pouvons pas, ici, sur nos territoires, considérer que cette question passe par pertes et profits et que les logements restent fermés. Il faut impérativement la prise de conscience de tout le monde. Si c'est trop court, prolongeons, mais il faut le faire. Et ce que je voudrais dire, c'est que moi, ce qui m'inquiète un peu bien plus, c'est la possible privatisation de notre barrage de Serre-Ponçon. C'est quelque chose qui nous pend au nez. Il faut être clair aujourd'hui. Nous refusons, nous, Front de Gauche, Front Républicain, que ce barrage soit privatisé, que les choses soient claires.
Jérôme Sainte-Marie, je vous ai vu faire oui, là aussi.
Oui, bien sûr, ça a été la position constante du Rassemblement National qui refuse cette idée folle de privatisation des barrages. Mais puisqu'on parle des propriétaires, j'ai quand même une question à poser à Madame Allemand. On parle des propriétaires de l'immobilier. Est-ce que vous me confirmez ce que j'ai cru lire dans le programme du nouveau Front Populaire, que vous souhaitez, je cite, l'abrogation de la loi Casbarian contre les squatteurs, et donc que vous souhaitez revenir sur cette loi qui lutte contre la pratique du squat?
Alors, excusez-moi.
Plus précisément, c'est vous souhaitez l'interdiction des expulsions locatives pour impayés sans proposition de relogement.
Excusez-moi de ne
vous
pas vous répondre,
mais je vais terminer. Mettre leur logement à disposition.
Je vais terminer avec madame, puisque
c'est une question importante.
Je pense que vous n'êtes pas journaliste, monsieur. Je pense que vous n'êtes pas journaliste et ce n'est pas à vous de poser les questions.
Ceci dit, je peux vous poser cette question. En effet, ça fait partie
du programme. Favorable à la loi anti-squat. Ça intéresse tout le monde. C'est dans votre programme. Ce n'est pas dans votre acte, comme beaucoup de choses en matière fiscale et en matière d'immigration. Il faudra parler, somme toute. Mais vous êtes favorable, puisque vous portez ce programme que j'imagine vous assumez, à l'abrogation de la loi anti-squat.
Je vous ai déjà répondu là-dessus et je vais terminer mon propos, puisque visiblement ça ne vous intéresse pas, avec madame. Ce que nous proposons également, c'est d'abord et avant tout au niveau de l'énergie, c'est que les bâtiments publics soient en termes de puissent être utilisés avec des panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires, pour produire de l'énergie propre dans nos communes. Et d'abord et avant tout, ces bâtiments-là. Nos agriculteurs ont bien compris l'usage de ces panneaux et l'intérêt que ça pouvait porter dans notre département, avec de nombreux bâtiments qui sont aujourd'hui construits et les bâtiments anciens sont aujourd'hui recouverts avec des panneaux photovoltaïques pour porter la contribution des agriculteurs sur, sur cette énergie propre.
On va continuer le débat. Juste, j'apporterai la réponse sur cette loi anti-squat. La gauche plurielle a acté dans son alliance que si elle accédait au programme, elle supprimerait cette loi anti-squat, et je cite, qui criminalise les locataires. On va poursuivre ces discussions sur d'autres thèmes, notamment sur l'immigration. Fabrice Margaillan.
Oui, tout à fait. La lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine figure parmi les priorités fixées par le préfet aux forces de sécurité intérieure. En 2023, les effectifs de police et de gendarmerie ont procédé à 6151 interpellations ayant conduit à 4809 non-admissions, mais leur action a été largement critiquée par la Défenseure des droits, car contraire aux règles européennes sur la libre circulation des personnes. Quel est votre point de vue sur cette situation où finalement les forces de sécurité reçoivent des injonctions paradoxales finalement?
Oui, il y a une forme de désespérance, si vous voulez, parmi les forces de l'ordre, par rapport à... On leur demande de remplir une mission, et puis derrière, cette mission est privée, cette exécution de mission est privée d'effet par un laxisme judiciaire, voire même par des normes européennes qui leur sont imposées. Vous avez effectivement 5% simplement des OQTF, c'est des obligations de quitter le territoire en France, qui sont exécutées, par exemple. Et c'est des sujets qui sont, qui sont délicats humainement. Là-dessus, le Rassemblement national a bien conscience que nous sommes à une formation qui est résolument hostile à l'immigration illégale, bien entendu, mais également pour une réduction drastique, voire une quasi-suppression de l'immigration légale. Mais dans le respect absolu des personnes, on imagine bien que beaucoup de gens qui sont des migrants, même clandestins, viennent ici parce qu'ils sont dans la misère dans leur pays, et par ailleurs parce qu'ils trouvent des avantages à être ici. Malheureusement, nous ne pouvons pas résoudre ces choses-là dans les pays d'origine, et donc nous devons faire que la France, et donc le département des Hautes-Alpes est partiellement concerné via le flux qui arrive notamment du nord du département, par le Mont-Genèvre, par le col de l'Échelle. Nous devons faire en sorte que ce flux s'arrête, qu'il n'y ait plus d'incitation. Là aussi, les propositions du Rassemblement National sont bien connues. Elles sont même parfois dénoncées par la gauche. Mais moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, Madame Allemand, c'est de savoir ce que vous proposez. Parce que ça, autant nos propositions sont bien connues, autant les vôtres ne le sont pas suffisamment. Est-ce que vous confirmez que vous souhaitez, si vous, en tant que candidate du Nouveau Front Populaire, je cite votre programme, créer un statut de déplacé climatique? Donc en fait, ça signifierait que ça serait une liberté offerte à peu près l'ensemble de la planète, puisqu'effectivement le réchauffement climatique concerne tout le monde. Créer des voies légales et sécurisées d'immigration, je vous lis. Abroger les lois asile et migration de Macron, qui sont pourtant fort peu sévères. Réviser le cadre pacte asile et migration, améliorer les conditions d'accueil des exilés, etc. Vous parlez d'exilés en plus et non pas de migrants. Et enfin, faciliter l'accès aux visas, régulariser les travailleurs, etc. Vous savez très bien que ce programme, cette partie du programme qui a été entièrement dictée par la France insoumise, eh bien, cette partie du programme provoquerait un afflux d'immigration énorme qui toucherait, comme ça touche déjà, notre département. Vous savez très bien que certes, les Hautes-Alpes sont plus davantage une zone de transit d'immigrants clandestins que d'installation, mais peu à peu, évidemment, les choses, naturellement, vous avez de nombreux migrants clandestins qui commencent à s'installer, notamment dans notre circonscription à Gap, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer.
La préfecture de Hautes-Alpes ne fait pas son travail.
Mais pas du tout, elle ne peut pas le faire. La préfecture de Gap fait son travail.
mais elle ne peut pas le faire dans la mesure où elle est empêchée de le faire, bien entendu. La police fait son travail, la gendarmerie fait son travail, bien entendu, mais elle est impossible, c'est impossible de le faire compte tenu à la fois des lois et surtout d'absence de volonté politique d'application des lois existantes. S'il y a un sujet sur lequel je crois que le Rassemblement national n'est jamais pris en défaut, c'est sur sa volonté de lutter avec la dernière énergie pour que les lois en matière migratoire soient appliquées et que de nouvelles soient prises pour empêcher que la France soit submergée de par les migrants légaux et illégaux.
Marie-José Allemand.
J'ai déjà répondu à M. Sainte-Marie sur son questionnement. Je vois qu'il a très bien lu notre programme et je le félicite. Je n'ai pas eu l'occasion de lire le sien de manière claire. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que vous faites des propositions que vous ne tenez pas, monsieur.
Vous confirmez quand même que c'est bien votre programme.
Vous faites des propositions. Arrêtez de me couper, s'il vous plaît. Non, mais soyez poli.
Vous confirmez-vous que ce que je vous ai
soyez
dit,
poli et ne me coupez pas.
Votre ce programme,
que je veux dire,
est-ce
c'est
que vous l'assumez devant vos électeurs? Vous ne l'assumez pas dans votre acte. Vous n'en parlez jamais dans votre production.
Arrêtez,
ici, parce que vous savez que les Français,
monsieur, vous êtes
et les
grossier.
Je ne suis
pas votre élève. Arrêtez de me donner des leçons.
Marie-José Allemand.
Donc moi, ce que je veux dire, c'est que le Rassemblement national fait des propositions, monte nos habitants, les Français, les uns contre les autres, parce que c'est ou tout blanc ou tout noir. Et en fait, dans les actes, ça ne se produit pas. Madame Meloni, ça ne vous aura pas échappé, en Italie, qui est extrême droite aujourd'hui, elle a légalisé 450 000 immigrés. 450 000 immigrés. C'est exactement des actes contraires à ses propos et sur lesquels elle a été élue. Alors vous pouvez dire non de la tête, mais oui, c'est vrai. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'en matière... je voudrais revenir sur la sécurité et sur ce que nous proposons. Nous proposons...
On parlait d'immigration, là. Vous faites un lien étrange, mais on parlait d'immigration.
Vous allez arrêter de me couper, c'est parfaitement désagréable.
Bon, alors, vos propositions.
Je serai attaché à défendre mes propositions, puisque nous assumons notre programme. Et nous lisons le programme, je vois que vous avez refusé de répondre sur ces points de votre programme qui sont bien présents. J'incite encore une fois tous les électeurs qui nous écoutent à aller lire le programme du nouveau Front Populaire.
En tout cas, il y a quand même, Marie-José Allemand vous a quand même interpellé
formidable.
Sur l'Italie.
Tout simplement, attendez. Je lis le point du programme et après je vous répondrai sur effectivement l'Italie.
En tout cas, il y a quand même cette question, on ne peut pas aller contre certains textes, notamment européens.
On peut, vous savez, quand on veut, on peut. Le général de Gaulle avait réussi à imposer à tous, y compris aux États-Unis, un certain nombre de choses. Vous savez, c'est une question de volonté politique. Il ne faut pas se mettre en permanence en situation d'être dominé et d'être passif. C'est justement cette volonté politique qui manque désormais très largement qui fait que le Rassemblement national recueille la confiance des Français et que 38% des électeurs de la première circonscription ont choisi de voter pour un candidat du Rassemblement national il y a quelques heures.
Il en reste 62%.
Je voudrais... bien, certes, ça s'appelle un second tour, madame.
Allez-y,
ensuite,
on y va, on avance.
Le Rassemblement national propose, je vous donne quelques propositions, de supprimer les obstacles limitant l'application des OQTF. Ils sont nombreux. Le retour, ça c'est très
mais
important.
Monsieur, les OQTF, c'est la loi.
Vous pouvez m'interrompre, ça c'est pas un problème.
Bah, écoutez, au bout d'un moment, ça
vous
suffit.
Vous posez une question, c'est pas possible, c'est ça en fait. Donc je continue. Vous savez qu'aujourd'hui, grâce à monsieur François Hollande, candidat du nouveau Front Populaire, grâce à monsieur François Hollande, si j'ose dire, ou plutôt à cause de monsieur François Hollande, on a supprimé le délit de séjour illégal sur le territoire national. Le fait d'être un clandestin, eh bien, n'est plus un délit en soi. La police ne peut pas vous arrêter pour cela. C'était dans le cas, comme dans tous les pays du monde, pour ainsi dire, jusqu'à M. François Hollande et la majorité de gauche de l'époque, les amis donc de Mme Allemand, on a supprimé ce délit d'entrée et de séjour illégal sur le territoire national. Nous souhaitons et nous ferons que ce soit désormais aboli et rétablir le délit d'entrée illégale et le délit de séjour illégal sur le territoire national. On interdira également la régularisation d'un étranger qui sera venu ici en situation irrégulière, dont le premier acte finalement en France aura été de violer sa loi. On instaurera effectivement la priorité nationale dans certains domaines. On réformera le droit d'asile qui est aujourd'hui complètement dévoyé. J'en ai discuté avec un ancien ambassadeur de France, monsieur Xavier Driancourt, qui m'a expliqué comment ça se passait dans les commissions chargées d'examiner le droit d'asile. C'est absolument surréaliste. Et on renforcera les obligations entourant la naturalisation d'un étranger. Qu'il y ait ensuite, et là on en vient, alors je ne suis pas un spécialiste de la situation rapidement italienne, mais qu'il y ait ensuite, qu'il puisse avoir le recours pour certains secteurs et à certains moments à une immigration légale, c'est évident. Il ne s'agit pas de, comment dirais-je, de supprimer toute possibilité d'immigration. Il y a des besoins économiques notamment qui peuvent être assouvis dans le respect de la loi, dans le respect de la volonté populaire. 66% des Français aujourd'hui considèrent que l'immigration sous toutes ses formes est une catastrophe pour notre pays. Ils réclament une action des pouvoirs publics, ils réclament un référendum. On refuse de céder à la demande du peuple français. Nous, eh bien, nous l'entendons et nous le suivrons.
Marie-Josée Allemand.
Je voudrais juste revenir sur les propos de M. Sainte-Marie concernant les réfugiés climatiques. C'est dramatique d'entendre des choses comme ça. Aujourd'hui, nous savons que le réchauffement climatique est un problème. Et peut-être que nous, demain, aux Alpins, nous aurons besoin de partir. Nous aurons peut-être besoin de partir dans un autre pays parce que nous ne pourrons plus y vivre. Le réchauffement climatique, monsieur, c'est un problème. Et les réfugiés climatiques en sont un aussi. Regardez nos îles, nos îles, nos territoires d'outre-mer. La problématique, elle est réelle. Elle est réelle. Donc dire aujourd'hui qu'on refuse les réfugiés climatiques, on l'a toujours fait, l'acceptation de ces personnes.
Des réfugiés climatiques ?
Mais bien sûr.
Ça n'existe pas.
Mais bien sûr que ça existe. Mais bien sûr, monsieur.
Par rapport à cette question, on arrive à la fin de ce débat, désolé. Par rapport à cette question de l'immigration, je voudrais revenir quand même. Il y a une inquiétude, alors peut-être pas dans votre circonscription, mais en tout cas sur l'autre circonscription, il y a une inquiétude autour de cette immigration. Qu'est-ce que vous répondez justement à ces gens qui sont inquiets?
Moi, ce que je voudrais répondre, c'est est-ce que on peut aujourd'hui accepter que des gens meurent parce qu'ils ont besoin, que des gens meurent au col de l'échelle, par exemple en plein hiver. Est-ce qu'on peut l'accepter? Est-ce qu'on doit l'accepter que des gens traversent la Méditerranée pour sauver leur peau et qu'ils se noient? Est-ce qu'on peut l'accepter? Je ne pense pas qu'un être humain, quel qu'il soit, puisse accepter que des enfants se noient en Méditerranée.
Nous sommes entièrement d'accord là-dessus, madame.
Je ne peux pas l'accepter.
C'est pour ça qu'il ne faut pas créer un appel d'air pour inciter ces malheureux...
Laissez-moi parler.
À mettre leur vie en
danger. Je ne parle pas d'appel d'air. Je parle de cette situation que nous connaissons. Cette problématique de l'immigration doit être traitée dans les pays des personnes. C'est un problème de politique internationale. Nous devons, dans les pays concernés, aller aider pour, de quelque façon que ce soit, de manière à ce que les gens restent dans leur pays. On ne part pas de son pays, de sa propre volonté, en disant « tout va bien se passer, je vais dans un pays qui m'accueille ». C'est faux. La plupart des personnes partent à cause de la guerre, par manque de nourriture, à cause des gouvernements en place.
Vous connaissez pas le dossier, visiblement.
Écoutez, arrêtez de me couper.
On vous demande de votre programme de gouvernement pour la France.
Arrêtez de me couper.
Quelles sont vos mesures sur l'immigration?
Allez, rapidement, Marie-Josée Allemand.
Défendez votre programme, madame.
Rapidement, Marie-Josée Allemand va répondre. On va arrêter ce débat sur ce sujet. Marie-Josée Allemand, on finit avec une minute de réponse.
Moi, j'ai répondu déjà à votre question. L'immigration, c'est un problème de politique internationale. Et c'est tous ensemble que nous résoudrons ce problème.
Les Français auront parfaitement compris, les Hauts-Alpins aussi, que vous ne ferez rien pour la contrôler l'encourager. C'est très net dans vos réponses ou votre refus de réponse.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme Sainte-Marie, Marie-Josée Allemand, d'avoir été avec nous pour ce débat. Le temps de parole, 29 minutes pour Jérôme Sainte-Marie, 28 minutes 25 pour Marie-Josée Allemand. Merci d'avoir retrouvez ce débat sur Alpe 1 avec Le Dauphiné Libéré et Alpe Midi, un débat qui sera disponible en replay dans quelques instants. Merci à vous.